C'est le Ghetto Blaster.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Ghetto Blaster. Vous êtes avec Mathilde pour une nouvelle émission musicale. Et ce soir dans le Ghetto Blaster, je recevrai dans un instant Samuel Garcia qui viendra nous parler de son projet solo, projet autour des musiques traditionnelles du Proche et Moyen-Orient. Mais avant cela, on va s'écouter un premier morceau de Samuel Garcia bien évidemment, ça s'appelle Kamashi. C'est une reprise d'un chant traditionnel indien et c'est tout de suite sur le 99.5.
Kamakshi kamakoti pi dabaseni mahamaba kamakshi kamakoti Dabaseni Mahamaba Kamakshi Maba 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 Koma Mahari kusuma tioti emamparana bhushani samasta sambrajadharini samasta sambrajadharini sadguru bhajanam Kamakshi kamakoti pi dabaseni mahamaba kamakshi kamale Kamalakshi
Ghetto Blaster, ce soir à l'instant, on s'écoutait Kamakshi de Samuel Garcia. Donc Samuel Garcia qui est avec nous ce soir dans le Ghetto Blaster et qui vient nous parler de son nouveau projet solo, projet musical, Désert sans frontières.
C'est
salut
ça.
Samuel.
Salut Mathilde.
Et donc voilà, je disais à l'instant, tu viens nous présenter ton projet solo, projet musical dans lequel tu interprètes des chansons traditionnelles proches et du Moyen-Orient, pardon, et également d'Inde, pour
ouais.
Les dernières, notamment celles qu'on vient de s'écouter. Et alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est né ce projet solo et d'où te vient ce goût de musique traditionnelle ?
Eh bien, c'est une question très large et c'est un projet qui vient de loin, qui vient de très loin. Ça vient de l'enfance, en fait, des musiques qu'on écoutait, que ma mère m'a fait écouter, que ma grand-mère m'a fait écouter. Et, et au fur et à mesure des années qui m'ont de plus en plus touché, voire de plus en plus obsédé. Il y a un moment en fait où tu vois, j'ai commencé avec des musiciens du type Dafur Youssef, Tigran Amassian, il y a pas mal d'années, à me passionner, mais en fait à pas avoir le choix en fait, c'est-à-dire que ça me parlait tellement, ça me remuait tellement l'intérieur que j'ai creusé à partir de ces grands artistes très connus que j'écoutais parmi tout ce que j'écoute, tous les styles différents. Et par ce biais-là, et par aussi le flamenco, parce que je suis d'origine espagnole, où le flamenco a une certaine importance, quoi. Très rapidement, on va vers la musique arabo-andalouse quand on écoute du flamenco. Donc il y a ces deux chemins-là, en fait, qui m'ont amené à ouvrir les portes de des musiques traditionnelles. Alors d'abord du Maghreb, et ensuite, tout doucement, j'ai découvert tout ce qui se passait au Moyen-Orient à base d'après-midi dans une médiathèque allouée, avec mes deux cartes de location et louée 20 CD, d'Ouzbékistan, de Kurdistan, d'où tu veux, tu vois. Et j'y allais comme ça au hasard et j'allais écouter, j'avais l'impression de voyager à travers ces CD. Pas que de voyager de manière... pas que des paysages visuels, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a un vrai voyage émotionnel à travers ces... À travers ses musiques, à travers ses chants, à travers les interprétations qu'ils ont, parce qu'on se retrouve devant des mélodies finalement assez simples. On n'est pas tout le temps, en tout cas, dans quelque chose de complexe musicalement ou harmoniquement. La majorité du temps, on est dans quelque chose d'assez simple, mais c'est l'interprétation qui donne tout son sens, qui donne toute l'expression de ces musiques et qui, du coup, émotionnellement, qui parle, enfin, moi en tout cas, qui me parle énormément en fait. Ça m'a beaucoup parlé et j'ai eu besoin de faire partie de ça au fur et à mesure des années, d'utiliser ce sentiment que ça crée en moi pour gérer mes propres émotions en fait.
Donc, un héritage familial dans la pratique et dans la technique vocale et instrumentale, du coup, tu t'es formé assez tôt à ce style de musique. Ces styles de musique, puisque ça doit être hyper divers.
Il y a plusieurs manières un peu d'interpréter tout ça en fonction de quand on est en Arménie, quand on est en Iran, quand on est en Turquie, où là c'est les trois pays principaux où je vais chercher les morceaux. C'est même pas où je vais chercher, c'est d'où viennent les morceaux qui me touchent énormément en fait. Je choisis jamais en fait, à aucun moment je me dis tiens je vais prendre tel pays, je vais creuser là-dedans, c'est jamais ça. C'est-à-dire, je suis toujours en recherche totale tout le temps, perpétuelle, et à un moment quelque chose m'obsède et il faut que je creuse. Et en fait depuis, ça fait maintenant je sais pas une petite dizaine d'années que j'ai commencé à faire ça. Et au début c'était quelque chose de, je tâtonnais mais c'était lent tout ça, ça prenait du temps, je manquais comme le reste du monde de confiance en moi. Et donc une chanson pouvait me prendre des mois avant que je finisse par me dire ok, bah c'est bon, je vais m'y mettre et tout. Aujourd'hui ça s'est complètement transformé. Aujourd'hui c'est vraiment, pour moi c'est un outil de gestion, gestion de ma personnalité, c'est un de mes émotions, c'est carrément thérapeutique pour moi aujourd'hui. C'est vraiment j'en suis là.
Yes. Et alors, dans ce répertoire, qu'est-ce qui, tu disais, hein, ça t'anime, ça te touche. Comment tu le traduirais, ça? Est-ce que c'est en termes d'harmonie, de rythme, de le tout, ou ce que ça t'évoque, les paroles?
C'est hyper intéressant comme question, parce que, en fait, pendant peut-être 5 ans, je dirais, les 5 premières années où j'ai fait ça, où j'ai cumulé quelques morceaux... donc jamais dans l'idée de le partager, ça a été très très personnel, même carrément secret en fait. Je le disais pas parce que je suis pas chanteur, je suis percussionniste, je suis caché derrière ma batterie, je suis caché derrière ma derbouka. Donc c'est quelque chose qui a pris du temps à émerger, c'est quelque chose comment dire, d'où on vient. mon esprit part un peu dans tous les sens parce que c'est quelque chose qui fait vraiment écho à beaucoup de choses dans ma vie, en fait, qui m'a permis, moi, de passer par-dessus des choses dures, des choses... parce qu'en fait, je ne peux pas parler de ce projet sans parler de choses très personnelles. Parce que c'est vraiment... moi, je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Okay. Et donc, j'ai contracté ça à 18 ans. Et en fait, comme beaucoup de gens à qui rencontrent des problèmes de santé ou d'autres problèmes, hein, à n'importe quel niveau, de toute façon... on se retrouve à réapprendre, à se connaître, dans l'acceptation, dans des termes très larges et très difficiles à appréhender, du type le lâcher prise, le vider son sac, ce genre de choses. Et en fait, on nous dit ça, on comprend bien l'idée, si tu veux, mais c'est très dur. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a quelque chose de difficile à gérer dans notre vie ? Comment est-ce qu'on lâche prise ? Comment est-ce qu'on est dans l'acceptation ? Et donc, moi, j'ai mis des années à... Enfin, pendant des années, voilà, c'est une information dans ma tête. Je me disais, bon, OK, la vie, c'est dur. Il faudrait accepter, il faudrait lâcher prise. Mais comment, quoi ?
Comment faire, ouais.
Et en fait, cette musique-là... Voilà, donc je reviens à ta question de tout à l'heure. Cette musique-là, en fait, c'est comme un message, en fait. Et pendant des années, j'ai jamais traduit les paroles de toutes les chansons que j'avais faites, enfin que j'avais reprises. J'ai jamais traduit parce que, pour moi, le sens qui m'importait, en tout cas, à mon niveau, vu que j'étais tout seul à chanter mes chansons, que je les présentais à personne, j'avais pas besoin de les traduire. Le sens profond des mots m'intéressait même pas, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire que, pour moi, le message, il était dans la mélodie, dans toutes les fioritures de cette mélodie et dans la déclamation dans toutes les déclamations qu'il y a dans ces chansons, en fait. C'est-à-dire que mélodiquement, le mélange entre la mélodie et la musique de la langue, parce que toutes ces langues aussi, sans que je les comprenne et sans que j'ai cherché à les traduire, me parlent, en fait. Et moi, j'avais l'impression pendant des années de comprendre quelque chose clairement, quoi, de créer mon sens à moi, et en fait qui m'a permis à moi de me parler, de me parler à moi-même par un biais que j'avais pas trouvé. Et donc ça a été vraiment une découverte géniale, en fait. Ça m'a vraiment fait du bien, quoi.
Yes. Et un jour, t'as découvert du coup le sens des paroles. Je vois que t'as ton petit classeur devant toi.
Ouais, alors c'est-à-dire qu'un jour, je me suis dit... Bon, en fait, je suis passé en pas si longtemps que ça, en gros, à partir du confinement.
C'est, okay. Donc il y a peu, quoi.
Ouais, non, il y a très peu. Ouais. C'est-à-dire que début de confinement, j'ai commencé à me dire, bon, là, j'ai un set quand même qui est sacrément, sacrément fat, quoi, et il va falloir un jour que je le partage, ce truc-là. Parce qu'en fait, ça fait partie du... Enfin, je me suis rendu compte que ça faisait partie du processus. C'est-à-dire que c'était bien de faire ça pour moi, mais qu'en fait, j'avais besoin d'extérioriser tout ça aussi. J'avais besoin de délivrer le message.
C'est l'étape suivante, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Et du coup... Là, du coup, se sont posées plein d'autres questions. Oui, en fait, d'abord par respect pour tous ces peuples, ça a été d'abord ça, où je me suis dit, je ne peux pas chanter des chansons dont je ne connais pas le sens, parce que, voilà, simplement, par respect pour déjà bien prononcer, pas dire de bêtises, entre guillemets, des choses, je veux dire que des choses que je défends. Donc, c'est des chansons qui ont des siècles pour chacune d'elles. Donc, faut savoir de quoi on parle aussi, c'est hyper important. Et puis, tout ça, ça parle à plein de gens. Avant, moi, j'étais tout seul chez moi, donc la question se posait pas. Mais à partir du moment où je me suis dit, bon, là, il faut le montrer, il faut que je sache de quoi je parle. Et alors là, ça a été génial parce que, en gros, il y a quelque chose de commun à tous ces morceaux-là, qu'ils soient turcs, persans... peut-être un petit peu moins pour les Arméniens qui ont des sujets de prédilection, si je peux dire. Mais de manière générale, il y a quelque chose de très, très poétique, très proche de la nature. On va tout le temps parler des oiseaux, des nuages, des montagnes, de la neige. Quelque chose qui est très, très romantique, très, très poétique. Et alors, c'est pas que je sois quelqu'un de ni poète, ni spécialement romantique, mais c'est quelque chose qui a une importance pour moi énorme, en fait. C'est-à-dire que moi, je me trouve bien au bord d'une rivière, en écoutant les petits oiseaux,
ouais,
c'est mon point zéro, quoi. Donc voilà, ça a été une très belle surprise de me rendre compte de ça, c'est que non seulement ces messages mélodiques et, me parlaient, quoi, mais que même dans le fond,
d'autant plus avec le texte.
Voilà, la manière d'exposer ça. Alors en fait, dans le fond, on va parler politique, on va parler d'histoire, de meurtres antiques, des choses comme ça, mais toujours par métaphore, par l'utilisation des oiseaux, l'utilisation de la montagne, et ça donne des choses très, très profondes, très, très, très proches du soufi. Alors c'est pas des chants soufis ce que je fais.
Okay.
Alors peut-être qu'il y a des chansons qui ont un rapport de près ou de loin avec le soufi. Je suis pas du tout je suis spécialiste de rien. Hein. Je suis autodidacte total, quoi. Mais je sais que c'est très proche de l'idéologie soufi dans le sens où il y a on va parler de la nature, d'amour, des arts de manière générale. D'ailleurs, Kamakshi qu'on vient d'écouter, c'est la déesse des arts et de l'amour.
D'accord.
Et donc c'est la seule chanson qui parle d'une déesse ou d'un dieu personnifié que j'ai choisi d'interpréter parce que finalement j'aime cette vision-là, quoi. Je veux pas trop parler de religion, mais cette manière de voir les choses me va. Et en fait, toutes ces chansons parlent de ça. Toutes ces chansons parlent d'amour, de nature. Voilà, c'est la manière d'exposer tous ces sujets-là.
Eh bien. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau du coup ?
Carrément.
Je te propose d'écouter Bingol, un chant donc arménien. Turc. Est-ce que tu veux bien nous le présenter rapidement avant qu'on se l'écoute?
Et ouais, alors Bingöl, c'est une ville, c'est donc une ville qui s'appelle Bingöl, et c'est aussi une grande région où il s'est passé énormément de choses. Et donc voilà, là c'est une chanson qui parle de cette région-là. Et je peux te dire par exemple les premières phrases de cette chanson en français. Donc on va entendre en turc arménien. Donc là c'est quand les portes vertes du printemps s'ouvrirent, les sources de Bingöl sont devenues lyres. Des chameaux d'épinettes traversaient l'allée, Yartsel est allé à Bingöl.
Très bien. Allez, on s'écoute Bingöl tout de suite. De Samuel Garcia à l'instant dans le Ghetto Blaster, donc interprétation d'un chant arménien et turc, c'est ça ?
C'est ça.
Traditionnel. Et donc on en parlait un petit peu hors antenne à l'instant, je voulais un petit peu te lancer sur, donc avec ton frère Eli, vous avez un projet duo Garcia, voilà, qui propose un répertoire proche de celui que tu proposes avec ton projet solo, et je voulais que tu nous expliques un petit peu ce qui fait vraiment la différence entre ces deux projets musicaux.
Eh ben alors effectivement c'est vraiment quasiment exactement les mêmes régions du monde, à part qu'avec le duo Garcia, justement il y a quand même des différences. Avec le duo Garcia, donc rien que par les instruments déjà en fait, mon frère Eli Garcia joue du luth afghan, le rebab. Et donc c'est vraiment l'instrument de l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas cet instrument en dehors de ce pays. Et c'est un instrument hyper rare dans le monde, en fait, qui est très, très, très rare. Et qui est lié à un répertoire très précis. La musique afghane est vraiment un style à part entière qui se reconnaît tout de suite, qui est très proche de la musique indienne, mais qui a ses spécificités par la langue et par le jeu du rebab, justement. Et donc, qui a une virtuosité particulière. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un truc typique du duo Garcia où moi, je vais pas du tout. Et moi, le truc dans mon solo qui est typique de mon solo où le duo Garcia ne va pas du tout, ça va être par exemple l'Arménie, les chants arméniens qui vont être très lents, très contemplatifs, très, très simples, en fait, très très simples. Et du coup, c'est une région du monde dans laquelle, avec le duo Garcia, on va pas du tout piocher parce que ben, les envies, comment dire. C'est même pas vraiment facile à expliquer, du coup, finalement.
Non, oui, c'est les esthétiques choisies, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, il s'agit juste de moments où on écoute des morceaux. Alors, c'est vrai que, voilà, le duo Garcia, c'est complètement instrumental.
Oui, il y a
donc,
ça aussi, ouais.
Percussion rebab. Et à un moment, la question s'est un peu posée est-ce que je chante ou pas dans le duo Garcia? Est-ce qu'il y a la place à mettre du chant? Est-ce qu'il y a du lien dans tout ça? Et la réponse est plutôt non, et c'est pour ça que ça a évolué jusque-là. Alors déjà, pour une raison complètement pratique, c'est que je suis déjà tellement occupé, mes deux mains, mes deux pieds, voilà, parce que tout le set de percus du duo Garcia est riche, quoi. Donc j'ai un tambourin au pied gauche, une grosse caisse au pied droit, la derbouka dans les mains, les cymbales, et voilà. Donc il y a un moment, le cerveau,
chant, ça va être compliqué,
c'est très très compliqué. Alors c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Voilà, jouer. Mais alors là, je le travaille plus avec un daf. Donc le daf, c'est un tambour sur cadre iranien. Qu'on trouve dans plein d'endroits, dans plein de régions du monde arabe, mais qui est vraiment emblématique de l'Iran. Et c'est très dur, c'est très dur. Enfin, ce qui est très dur, c'est pas vraiment de chanter en faisant de la percu, c'est de chanter librement. C'est d'être, de pas, comme moi je suis rythmicien à la base, moi j'ai un cerveau de rythmicien, si je joue un rythme, je chante sur le rythme et pas ailleurs, quoi. Alors qu'il y a un vrai plaisir à pouvoir prendre de l'avance, du recul, être libre, quoi, dans l'interprétation. Et donc ça, avec le duo Garcia, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et c'est aussi parce qu'on aime tellement ce qu'on fait avec le duo Garcia, on aime tellement aller vers ces styles. Donc ouais, je parlais de virtuosité, c'est quelque chose qui nous attire beaucoup. Et qui nous touche, en fait, cette manière d'exposer ces thèmes qui sont riches rythmiquement, riches mélodiquement. Et c'est des sortes de trance. Alors, nous, on ne va pas les jouer comme certains les jouent dans certains pays ou dans certaines occasions, où ça va être, par exemple, un de nos morceaux pourrait finalement être dans certains cadres, jouer pendant 2 heures le même morceau et atteindre une trance.
C'est cyclique.
Ouais, il y a vraiment la culture de la trance dans ces régions du monde que nous, on n'a pas avec le duo Garcia. C'est peut-être notre côté un peu plus jazz. Donc on vient du jazz avec Ellie. Donc ouais, la forme est comme ça. Mais il y a quand même cette idée de trance qui est là, si tu veux, à notre manière. Et donc voilà, en fait, le chant, l'idée du chant ne s'insérait pas spécialement là-dedans. Et moi, j'avais besoin de faire ça, quoi. J'avais vraiment besoin de le faire, de l'exprimer. Donc j'ai commencé en solo, quoi. Et il y a un moment, je me suis dit, en fait, tout à l'heure, je te parlais du confinement. Et au début du confinement, j'en étais à, ce serait bien quand même qu'avant mes 40 ans, j'ai fait un concert avec ça.
Yes. Et finalement, ça a été très vite.
Et en fait, ça a changé très 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 vite dans ma tête. En fait, ça s'est pas fait tout seul, hein, parce que je pense que moi, tout seul, j'aurais mis beaucoup plus de temps à. En fait, il y a pas mal de raisons. Il y a pas mal de raisons. Toi, tout à l'heure, je te parlais de la maladie. Donc, la maladie a un vrai lien avec. La gestion, tu vois, de tout ça. Et en fait, pendant le confinement, début de confinement, la spondylarthrite, enfin bref, j'en reparle, mais. Ça m'embête un peu d'en parler, mais en même temps, c'est une des causes principales. Ouais. Donc vraiment, il faut, ça peut pas être, je peux pas passer à côté. Et avant le confinement, donc c'est une maladie, pour dire rapidement, chronique, auto-immune, qui crée des inflammations dans les articulations du corps, à différents endroits, à différents moments. Et tu peux pas t'y attendre, ça arrive, c'est comme ça, et tu dois juste l'accepter et lâcher prise. Donc moi, je suis batteur et percussionniste, donc l'essentiel de ma vie, ça se passe avec mes deux mains, mes deux pieds. C'était déjà compliqué, si tu veux.
Et
déjà, voilà, il y a toujours du mouvement, faut trimballer du matériel, l'humidité, tout ça. Enfin, toi, il y avait déjà pas mal de choses complexes. Mais la maladie s'étend, voyage, comme beaucoup de maladies chroniques. Et la maladie s'est étendue aux poignets et aux chevilles. Donc je me suis retrouvé à ne pas pouvoir faire de batterie pendant quasiment tout le confinement. Okay. Et même la percusse, c'était compliqué, quoi. J'avais des inflammations dans les mains. Puis moi, je suis suivi par un super kiné spécialiste des musiciens, de la posturologie, qui s'appelle Arnaud Creusot. Je fais de la pub. Et puis tu vois, donc à chaque fois, je passe par des phases de flip, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, ah ok, ah merde, c'est la maladie, donc là, faut accepter, puis faut envisager le futur, tu vois, faut s'adapter. Et en fait, là, à un moment, ça a été très dur parce que je me suis dit, mais putain, mais comment je vais faire, quoi? Comment je vais faire parce que j'ai déjà réorganisé toute ma vie pour aller vers ce qui me fait du bien. C'est comme ça que je suis atterri en tant que musicien professionnel. Ça n'a pas été tout petit. Enfin, tout petit, je voulais être musicien, mais j'ai travaillé 10 ans entre-temps pour une collectivité territoriale dans le socioculturel. Et à un moment, il a fallu que j'aille à l'essentiel, en fait. Il a fallu que... Tu vois, moi, j'ai grandi avec un beau-père qui m'a dit « Tu sais, Samuel, dans la vie, il ne faut pas se faire chier. » Et très simplement, hein, tu sais... Mais en fait, cette phrase, elle a influé sur beaucoup de choses dans ma vie. Vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais à l'essentiel, quoi. Je vais vraiment à l'essentiel. Et beaucoup de gens, en fait, font trop d'efforts pour se complexifier encore la vie. Moi, je suis vraiment vers ça. Il faut aller vers ce qui nous fait du bien. En fait, il ne faut pas se poser de questions, quoi. Donc, aller vers la musique, ça a été ça. Ça a été une réponse à ça. Et donc, pendant le confinement, là... ça s'est transformé en quelques mois, il faut que je le fasse avant mes 40 ans, à, en fait, il faut que j'y aille, quoi.
Faut y
aller maintenant, faut pas que j'attende, parce qu'on sait pas de quoi demain va être fait. Est-ce que demain, je vais toujours pouvoir faire de ma magnifique batterie que je viens d'acheter, que j'ai pas pu beaucoup jouer? Tu vois, c'est des questions comme ça. Est-ce que demain, je vais pouvoir aller à mon concert? C'est dur, quoi. C'est dur. Donc, en fait, cette musique-là, d'un côté, ça me permettait de faire de la musique, de faire ce qui me plaît, qui me passionne, malgré le fait que j'ai la cheville inflammée ou quoi. Et en même temps, et c'est pour ça que c'est une réponse évidente finalement, et en même temps, c'est ce qui me fait le plus de bien dans la vie, dans le monde. Quand ça va pas, hop, c'est les chansons, quoi. Je vais tout de suite vers ça, parce qu'aujourd'hui, c'est très clairement la réponse à ces questions de comment faire, tu vois, comment aller mieux, ou ce type de questions, tu vois. Alors bon, voilà, pour moi c'est ça, mais j'ai l'intime conviction que chacun peut trouver ce type de sentiment avec n'importe quoi. Ça peut très bien être, je sais rien, la menuiserie, l'ébénisterie.
Oui, chacun son activité.
C'est ça, ouais, et puis on peut trouver la plénitude ou n'importe quel mot, tu vois. Il y a beaucoup de mots en fait qui peuvent vouloir dire ce type de sentiment-là. Mais moi j'encourage, et tu vois, le peu de gens avec qui je discute qui ont une maladie, j'ai discuté, tu vois, avec des gens qui ont la même maladie que moi, ou d'autres qui ont d'autres pathologies, ou d'autres problèmes. Mais des fois c'est pas du tout des maladies, parce que chacun à son niveau, ça peut être, je sais pas moi, une rupture ou n'importe quoi, tu vois, qui à chacun à son échelle va créer des problèmes, quoi. Donc comment sortir de ces problèmes? Et voilà.
Et la musique t'aide à sortir de ça.
Voilà, pour moi c'est ça.
Le côté chant aussi doit être très fort. On en parlait un petit peu tout à l'heure sur la technique vocale, et puis ce côté très, ouais, tu viens de le dire, un peu trans, tu vois, dans la voix, à la fois le travail du placement de voix, le travail de l'accent, le travail de l'interprétation de la langue. C'est un truc que t'as beaucoup bossé du coup avant de te lancer.
Eh ben ouais, en fait, enfin, que j'ai beaucoup bossé. J'ai jamais bossé la technique pure, si tu veux. J'ai toujours chanté mes morceaux, quoi.
Ouais.
Mais en fait, c'est un peu pareil dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai rarement bossé la technique pure, même en instrument. Alors beaucoup plus quand même en batterie, parce que tu vois, il y a jazz à tour, tout ça. Enfin bon, j'ai quand même passé quand même des années à bosser quand même un peu de la technique, mais beaucoup moins que certains. Alors je dis pas que c'est mieux ou moins bien, hein, mais moi je me...
Quand je disais technique, c'était vraiment pour se faire comprendre tel que ça se dit dans la langue, en fait.
Ouais. Mais en fait, cette question, je me la suis pas vraiment posée, parce que tu vois, on en discutait un peu hors ligne tout à l'heure là. En fait, moi, ma quête, c'est j'écoute des morceaux qui me font du bien, qui me font espérer, qui me font prendre conscience, qui mettent une mélodie sur des sentiments. Tu vois, c'est quelque chose qui est Et l'objectif, en fait, dans tout ça, c'est que je sois capable de me l'approprier, de la jouer, et que quand je la joue, quand je la chante, je dois être capable, c'est jamais formulé comme ça, mais finalement, c'est le but, de ressentir la même chose, ou en tout cas quelque chose de proche. Je dois être capable d'ouvrir les portes moi-même, et sans avoir besoin d'une connexion Internet, ou d'un CD, ou de tel ou tel artiste que j'adore, mais j'ai besoin de faire ma version.
Donc, ton interprétation.
Ouais, et j'ai besoin, surtout l'objectif, c'est que mon interprétation
me fasse ressentir la même chose que ce que je ressens quand j'écoute, d'atteindre une espèce d'autonomie, tu vois, dans tout ça. Et donc, en fait, ben, comme je disais tout à l'heure, en fait, ce sentiment n'apparaît que si la langue est respectée, en fait. Ça ne peut pas apparaître si l'accent est mal fait, si l'intonation est mal faite, si la mélodie est... Même si, par exemple, je ne vais pas avoir les mêmes ornementations qu'un turc pur et dur de souche ou qu'un persan, parce qu'il y a vraiment des techniques de chant traditionnelles qui sont incroyables, qui demandent pas forcément une vie de travail, mais une vie de culture. Et donc, ben voilà, moi j'ai pas commencé tout petit non plus là-dedans, j'ai aucun autre exemple, c'est aussi un choix d'ailleurs, j'ai pas voulu aller voir de professeur, j'ai pas voulu aller me teinter de quelque chose d'autre que ce qui sort de moi.
Oui c'est ça, tu disais t'es autodidacte et t'as appris...
Ouais voilà, et c'est quelque chose...
Par ton écoute, ta pratique quoi.
Ouais, et, alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire absolument, mais moi j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'être autonome là-dedans et j'avais besoin de que tout ce que je fais là-dedans vienne de moi. Pour me, voilà, me sentir fort, quoi, me sentir... c'est ça, je sais pas trop comment le dire.
Bah écoute, comme ça c'est très bien.
Ouais.
Et donc, autodidacte, tu travailles donc toutes les chansons qu'on écoute, là c'est de l'enregistrement voilà, en autoproduction quoi, que tu fais
complètement,
chez toi.
Ouais.
Et tu me disais, je crois que tu prépares un EP du coup avec tout ça.
Alors je suis pas en train de le préparer à proprement parler.
En tout cas,
mais
ça se
voilà.
Prépare dans ta tête.
Ouais, l'idée est très 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 concrète. Il faut que tout ça, ça se dépose, il faut que ça sorte, et puis que ça sorte surtout de bonne qualité, fait par d'autres gens, parce que moi je suis pas du tout ingénieur du son, donc tout ce qu'on entend là, c'est moi tout seul avec mon petit Ableton et mes micros. Alors je suis quand même équipé, j'ai quand même un peu de matos au fur et à mesure, mais tu vois, c'est tout un monde quoi, comme on sait, c'est très difficile. Et puis c'est très bien aussi de travailler avec quelqu'un d'extérieur qui est capable de prendre des décisions que des fois on peut pas prendre nous-mêmes, on se rend pas compte qu'il manque ci ou qu'il y a trop de ça. C'est très important de travailler avec un ingénieur du son, donc j'en ai déjà en ligne de mire, tu vois. Le projet dans ma tête est de plus en plus concret, même si en vrai j'en ai pas de temps parler de ça, mais c'est très très concret. Alors il y a plein de choses en fait qui découlent de ce projet-là, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de faire un EP, il y a l'envie de partager ça très simplement, tu vois, avec n'importe quel public qui a envie d'écouter.
Donc des concerts plutôt intimistes du coup, puisque c'est une formule vraiment...
Très très clairement, c'est-à-dire que je me vois pas, en tout cas pas pour l'instant, aller démarcher les bars par exemple, tu vois, c'est, ou alors il va falloir vraiment que je sache que là c'est une ambiance particulière, à une heure particulière, tu vois, il y a quelques établissements que je connais où je sais que je vais pouvoir aller vers eux, tu vois. Mais il y en a d'autres sur lesquels où on est allé avec Ellie, parce que voilà, ça patate, c'est de l'instrumental, où là par contre j'irai pas quoi, peut-être un jour, enfin peut-être je me trompe, parce qu'en fait j'ai été très surpris en fait de, enfin c'est pas que j'ai été surpris, mais si ouais, j'ai été surpris de l'accueil de ce répertoire, tu vois, quand j'ai fait écouter ça, quand j'ai fait écouter mes chansons à ma grand-mère, celle qui m'avait la première fait filer des CD de Raï, des CD de musique du Maghreb, 1, 2, 3 Soleil et tout, je lui ai fait écouter mon truc, et elle m'a dit bah oui c'est très bien, mais est-ce que les gens ils ont envie d'écouter ça quoi, est-ce que tu vas avoir un public pour écouter ça quoi, et c'est vrai que j'y avais déjà pensé, mais toi, sans, je m'en foutais en fait, je traçais ma route quoi. Et le fait qu'elle me le dise, je me suis dit putain, mais ouais, c'est vrai que ça m'a un peu formulé ça encore un peu plus concrètement dans la tête avant que je fasse mon premier concert. Et je me suis dit merde, ça se trouve, c'est vrai que peut-être que les gens ils ont pas spécialement envie de ça, peut-être qu'il y a pas spécialement de public pour ça. Et en fait, plus je diffuse, plus je joue. Enfin, j'ai fait qu'un concert, mais plus je diffuse, plus les gens entendent ce que je fais. Et plus je me rends compte que c'est hyper bien accueilli et qu'en fait, les sentiments que moi, je ressens, eh ben, ils sont communiqués. Les gens ressentent ce que je ressens. Et alors là, c'est une fierté énorme déjà. Et puis voilà, c'est un bonheur. C'est génial, en fait. C'est vraiment super. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit à ce point-là cohérent avec ce que moi, je fais tout seul pour moi. Et en fait, ben, c'est complètement cohérent avec ce qui se passe devant un public. C'est,
yes.
Il se passe quelque chose de très proche en fait. Et donc les témoignages des gens qui écoutent, tu vois, une pote maman dont le gamin fait des crises incroyables et qui en fait m'émasique. Et elle m'appelle direct pour me dire Sam, fallait que je te dise. Toi, elle me raconte l'histoire. Mon gosse, il était surchiant et j'ai mis un morceau. Et là, depuis, il est dans le canapé, il regarde dans le vide avec son doudou et il me demande, on met une autre musique. ce genre de témoignage, waouh, c'est un truc de fou, tu vois. Alors, t'as les témoignages comme ça, entre guillemets, d'Européens, enfin de gens qui connaissent pas spécialement ce style-là. L'autre chose très très importante, c'était aussi d'avoir une sorte de validation, tu vois, des gens qui viennent de là-bas. Donc j'ai une amie à qui je dis bonjour, Fatemeh Lamdari, qui est iranienne et qui parle persan, qui écrit persan, qui parle farsi. Et ça a été hyper important de passer par par sa enfin je dis validation parce que je vois, j'ai pas trop d'autres mots, tu vois, mais de qu'elle écoute. Et puis j'étais vraiment très curieux et son avis m'importait énormément parce que je voulais surtout pas manquer de respect. Je savais pas comment quelqu'un d'un autre pays tu vois, est-ce qu'on me prendrait pas pour quelqu'un qui s'approprie la culture, c'est pas ta culture, enfin tu vois, j'ai pensé à plein de choses, des choses plutôt négatives. Et en fait alors je vais pas chanter devant des milliers de Turcs ni des milliers de Persans, tu vois, mais pas mal de personnes là ont quand même par exemple dans le milieu persan, qui entendent ce que je fais et qui... et voilà, c'est bon, c'est validé, quoi. J'ai des super retours sur la langue, tout le monde, on comprend très bien. Enfin, toi, on m'a dit, mais mec, tu vas en Iran, tu chantes les morceaux, les gens, ils comprennent tout. Et non seulement ils comprennent, mais en plus, c'est que des morceaux que tout le monde connaît.
Oui, c'est ça, c'est un répertoire traditionnel qui a été, j'imagine, repris par plein de gens. Enfin, c'est comme ça. Toutes les chansons tradies, quoi. Donc,
ouais.
Voilà, c'est ajouter quelque chose, puis c'est aussi faire vivre cette musique, enfin...
Et oui, c'est ça, c'est faire vivre cette culture, cette musique. Et en fait, les questions que je me posais se sont très très vite balayées parce que je me rends compte qu'en fait, les gens sont super contents, notamment quand ils sont plus chez eux ou en tout cas que la famille a immigré à un moment. Oui. Ouais, de voir que en fait, des gens s'intéressent et puis que moi, ça me fait énormément plaisir de faire le pont entre tout ça. Et je me rends compte que ça, en fait, ce sentiment, il est partagé par les Turcs avec qui je discute, les Indiens, enfin voilà quoi, il y a un truc très sympa à travers tout ça, quoi.
Tu disais tout à l'heure que du coup ta musique c'était plutôt de la musique persane, arménienne, turque. Comment t'as fait le pont jusqu'à l'Inde du coup? Est-ce que c'est en creusant aussi tout ce répertoire que t'es arrivé? Parce que là ton dernier morceau est traditionnel indien, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors en fait ce dernier morceau c'est peut-être un des tout premiers morceaux de ma vie que j'ai écouté et chanté dans ma salle de bain, ado. Donc c'est tiré d'un CD de Sushila Raman qui s'appelle Soul Train.
Yes.
Qui a une quinzaine d'années peut-être, un truc comme ça, peut-être 20 ans même. Et donc c'est une époque où j'étais pas du tout, comme aujourd'hui, tourné vers tout ça, j'étais complètement dans autre chose. J'ai toujours été très ouvert, si tu veux. Mais c'est peut-être un des premiers morceaux, tu vois, qui est sorti du lot, tu vois. Je me suis dit, putain, ce morceau, il se passe un truc. Et tu vois, gamin, ça, je le chantais déjà dans ma chambre, dans ma salle de bain.
Yes.
Alors, pas comme aujourd'hui, j'aurais jamais imaginé le faire maintenant, mais... Et c'est aussi que c'est un morceau, techniquement, qui me paraissait inabordable. C'est-à-dire que même quand j'ai commencé à faire des morceaux, les enregistrer, même quand j'ai commencé à les partager, ce morceau, ça faisait des années, en fait, que je l'écoutais, que je l'avais jamais repiqué clairement, mais qu'il était au fond de mon cerveau et qu'il en bougeait pas, si tu veux, que je le chante quasiment phonétiquement, par cœur, tu vois, depuis des années et des années. Et puis, il y a un moment où j'ai eu assez confiance en moi pour me dire, bon... En fait, il y a un moment, faut arrêter de flipper, quoi. Même si les morceaux, ils paraissent techniques, même si les morceaux, ils paraissent peut-être infaisables pour certains. Moi, il y a des morceaux que dans lesquels je me lance aujourd'hui, où il y a quelques années, même quelques mois, où j'aurais été plus frileux, voire je l'aurais pas fait parce que je me serais dit non, j'ai pas assez confiance, non, je le sens pas. Et en fait, au fur et à mesure du temps, là, je prends de la confiance. Et cette confiance me permet de me déstresser. Et le stress, tout ça, ça joue sur la colonne d'air. Ça libère le plexus, ça libère tout ça. Et en fait, c'est un tout ça. Ça me fait du bien au corps. Et le fait que ça me fasse du bien, que ça me détende, ça me permet d'aller plus loin, de prétendre à faire des chansons plus techniques, tu vois, comme Kamakshi, qui est... Et donc voilà, et en fait Kamakshi c'est le dernier que j'ai partagé, mais finalement c'est un des tout premiers.
À l'origine du projet solo. Eh bien c'est super. Est-ce que alors tu nous as apporté ta guitare, tu vas te chauffer la voix, est-ce qu'on s'écoute un petit morceau et ensuite tu nous fais un live?
Ouais.
Alors on va s'écouter Nevruz Turku et puis on revient tout de suite pour un petit morceau live. Nevruz Turku à l'instant, donc dans le Ghetto Blaster, et donc tout de suite depuis nos studios, Samuel, tu vas nous interpréter un nouveau morceau. C'est à toi.
Alors c'est pas un nouveau, mais bon, je l'ai jamais partagé celui-là.
En tout cas,
encore,
pour nous, c'est nouveau.
Voilà, ouais, c'est ça.
Çeksen karşıki dolar ikimi Bir av çeksen karşıki dolar ikimi Bugün masa gümün canın sokumur Sakumur aman aman Bugün masa gümün canın sokumur Sokumur aman 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 Ellerim eksubu çukur Ellerim eksubu gan çukur Benim ureyme enşe Sokumur aman 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 Benim ureyme enşe sokumur Sokumur aman aman
Samuel Garcia dans le Ghetto Blaster à l'instant. Et donc, merci beaucoup, Samuel.
Mais de rien.
Morceau en direct de nos studios. Je te laisse te réinstaller. Est-ce que tu veux bien juste nous dire, du coup, nous présenter peut-être ce que tu viens de nous chanter?
Ouais. Alors, c'est un morceau turc dont le titre est Bir of Çeksen Karşıki Dolar Yükümür. En fait, chanter le turc, c'est pas la même chose que le dire. Et du coup, souvent, quand je chante, on me dit « c'est bon, je comprends tout ». Par contre, quand je le parle, là, je me fais plus corriger, tu vois. Donc, c'est tout à fait possible qu'il y ait de la correction dans la diction. La traduction de ça, c'est « si je prends une inspiration, les montagnes en face s'effondreront ».
Ok.
Et en gros, c'est la neige qui parle. C'est la neige qui fond, qui devient glace. Et voilà, ça parle de nature, de vallée, de montagne.
Très bien. Je crois qu'on arrive déjà au terme de notre émission de ce soir. Juste avant qu'on se quitte, on se disait tout à l'heure peut-être que tu avais des dates à nous annoncer, des choses, des concerts, des envies, des projets qui se mettent en place avec...
Alors, il y a pas de, j'ai pas de date là concrète, même si ça va arriver. Mais par contre, il y a des pistes là qui sont très sérieusement creusées. Toi, tu allais en parler de l'accueil de cette musique et j'ai été super content et fier de voir donc l'accueil des gens, de tout le monde, et notamment des professionnels aussi, donc programmateurs, compagnies, voilà. Et donc là, j'ai la chance d'avoir une résidence au Plessis Théâtre voilà, qui m'a été proposée, donc trop génial. Et en fait, de ce projet solo là, c'est quelque chose de très personnel, mais je suis toujours un peu frustré, tu vois, de je suis toujours en train de jouer en même temps de chanter, donc ça me fait ça me préoccupe. Je veux me libérer de ça. Et j'avais très envie depuis longtemps déjà de m'entourer de gens pour jouer cette musique, mais c'est pas facile de trouver des gens pour jouer une musique comme ça. En fait, on peut pas juste être même très bon musicien. On peut pas juste être très bon musicien et venir jouer ça comme ça en tant que prestataire.
Faut le ressentir,
voilà, faut avoir une sensibilité particulière, être un humain particulier. Donc moi, j'étais en recherche d'humain particulier, voilà. Et donc je connais quand même deux trois musiciens à droite à gauche. Et donc en fait, ça a été assez évident que je voulais monter ce. Alors je savais pas si ça allait être un trio ou quoi. Il se trouve que là, je suis en train de monter un trio.
Ok.
Qui s'appelle aussi Désert sans frontières.
Donc en gros, ce sera un projet qui pourrait être donc proposable en trio, peut-être même en quartet, on verra dans le futur, c'est une question qui se pose, mais ou en solo. Et donc là, je rassemble donc deux musiciens, deux super musiciens autour de moi, qui je dis bonjour. Donc il y a Raphaël Dubert qui fait partie du groupe Les Dubs, les frères Dubs. Ah, donc avec qui je joue assez régulièrement, avec qui je suis parti en Allemagne, on est allé un peu à droite à gauche, quoi.
Sensible à ce genre de musique traditionnelle,
ouais aussi. Carrément, carrément. Mmh. Et qui joue d'instruments aussi très proches de ça. Alors, lui, il va peut-être être plus à mi-chemin entre Rebetiko, enfin, le monde de la Grèce, de la Turquie, tout ça, mais qui penche carrément vers ce que je fais, hein, qui est complètement même dans la même vague. Et donc, l'autre personne à qui je dis bonjour aussi, c'est Jean-Baptiste Gaudra, qui lui est sur Poitiers, et qui fait partie de Ousda, de Haïdé Oudri. Donc pareil, c'est un musicien qui a des très forts, donc JB à la clarinette en sol, clarinette turque, et Raphaël il est au latva. Alors le latva, c'est un truc vraiment, moi je connaissais pas, c'est vraiment très très peu connu, c'est une sorte d'oud, ça pourrait faire penser, en tout cas le son peut faire penser à l'oud, mais c'est pas foutu exactement pareil, mais en gros voilà, c'est assez proche de ça. Donc ce sera un trio avec latva, clarinette, sachant que les deux sont multi-instrumentistes, moi aussi. Donc pour l'instant, la question se pose si est-ce que je fais que chanter. On a fait pas mal de tests là, voir est-ce que je mets de la percu quand je chante pas, ou j'essaye de jouer de la percu pendant que je chante, mais c'est pas facile. Donc tout ça, c'est des questions qui sont en train de se poser et en train d'avoir des réponses. Donc c'est en plein travail. Et donc cette résidence au Plessis Théâtre va se faire avec ce trio. Et donc normalement, au cours du mois de janvier, je l'espère. Peut-être un peu plus tard, on va voir. Donc avec un concert de fin de résidence. Donc j'ai pas la date précise encore, mais ça va venir.
Oui.
Et donc bah voilà, d'ici là, on a déjà commencé à se voir là, et c'est super. Ils sont super motivés. On a une vision commune de cette musique-là. Donc c'est quelque chose qui était plus important que la musique elle-même finalement. Mmh. Fallait déjà trouver ces personnes-là, et donc je suis très très content d'avoir réussi à les rassembler, et puis d'avoir au fur et à mesure du temps pris assez de confiance pour dire voilà, je veux faire ça avec vous les gars. Ça c'est très récent, c'est vraiment très 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 récent. C'est au fur et à mesure de chaque petite marche, chaque petite avancée que le point de vue évolue, que je suis capable de m'assumer.
Yes.
Voilà. Et donc voilà, donc Plessis Théâtre, et puis concert, tout ça. Et il va aussi y avoir, on va aussi apparaître, donc toujours à travers le Plessis Théâtre et la compagnie Cano Lopez. Il y a tout un pan art-thérapie qui est mené par Mathilde dans la compagnie, et qui fait un énorme travail avec plein de publics différents, avec plein de choses différentes. Et donc cette piste aussi est creusée, parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure, moi il y a un vrai 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 côté art-thérapie pour moi. Mm-hmm. Même si ce mot-là est très large, musicothérapie, c'est une musique qui fait du bien, c'est une musique médicament, pour moi c'est très 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 clair. Et donc moi je sais absolument pas ce que je veux faire de ça, mais j'ai balancé l'idée.
Creuser, quoi.
Voilà, si tu veux m'utiliser comme un outil, je suis un outil qui veut bien servir. Et donc voilà, on va sûrement faire partie de ça aussi. Et donc voilà, encore un exemple de l'accueil qui est fait à cette musique, à ce projet. Donc je suis très très content, parce que le premier concert est très récent. C'était je sais plus quand, fin août. Donc voilà, donc ça avance bien, et plein de belles choses qui vont arriver.
C'est ça. Rendez-vous du coup en 2021, donc pour voir ça, peut-être avant sur scène, on ne sait pas, suivre.
Ouais, voilà, à suivre. Voilà. Il y a d'autres pistes aussi, sur Chinon, d'autres, enfin un peu à droite à gauche, tu vois, même sur Tours, mais bon, pour l'instant, voilà, il n'y a aucune date.
Ok. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Samuel, d'être venu nous voir sur Radio Campus et dans le Ghetto Blaster ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis, à bientôt Samuel.
À très bientôt, merci Mathilde.
À très vite sur 99.5.
Radio Campus Tours, 99.5.
Et sur internet, radiocampustours.com.